She did what she did. Elle a fait ce qu'elle a fait. As-tu peur? Est-ce que t'as peur, Eric?
Ça dépend, ça dépend. Là, je suis seul avec toi, par exemple. Je t'inquiète. Je suis un peu inquiet, là.
Be afraid. Faut que t'aies peur. Non, non. Bienvenue sur les ondes de Choc 88.7 pour tous ceux et celles qui viennent de nous rejoindre. Vous êtes dans votre retour à la maison. Mais ça de l'air, ça s'appelle Raph dans le Dash. Moi, c'est Raphaël Beaupré. Et Eric Flynn, qui nous parle de musique à tous les jeudis, est en studio.
Yes.
Bon, on maintient notre 2 mètres.
Ouais, effectivement.
Ton poste a été nettoyé avant. Je vais le nettoyer après. Donc, les gens n'ont pas à s'inquiéter. On est bien sécuritaire dans nos studios.
Oui, ben c'est ce que je vois aussi, ouais, effectivement.
Ben, tu vois des lingettes partout.
Oui, Lysol.
On a nos tonneaux. Oui, on a du RTL aussi. On a des spouches-pouches et tout. Bref.
Yes.
Tu veux nous parler de musique et plus précisément, aujourd'hui, tu veux nous partager une histoire d'une... En fait, on connaît depuis très longtemps Blondie.
Oui, le groupe Blondie.
Et tu veux nous partager des trucs sur...
Oui, parce que Blondie, c'est un groupe qui est quand même assez populaire, qui ont marché énormément dans les années 70 et même au début des années 80, qui à la base, qui était un groupe punk, qui faisait du punk au tout début, et qu'il était anti-disco, mais sauf qu'à un moment donné, qu'il y a eu la vague de disco, ils ont embarqué dans Ben Wagon.
faut s'adapter, puis on se rend compte, finalement, c'est pas si mauvais que ça, puis c'était carrément bon, puis on aime ça, fait que le son change un peu au fil des années.
Oui, surtout avec les signes de pièce qui vont au bout avec, là,
ben
il y a ça aussi. T'sais. Alors, surtout avec le look de la chanteuse, celle qu'on nomme la Madonna des années 70, Debbie Harry. Alors, imagine ce groupe-là, ils ont eu 10 pièces qui ont été dans le top 10 et il y en a eu 6 là-dedans qui ont été numéro 1 au Billboard.
Hey,
donc, c'est une machine
stock,
à succès.
C'est pas juste un one-hit wonder. Là.
Non, puis tu sais, c'est pas une longévité de 40 ans de carrière. Là. C'est un groupe qui a duré même pas 10 ans. Là. Il y avait du talent là-dedans. Ça, là, je vais être bien franc avec toi. C'était un groupe qui était très talentueux, mais très sous-estimé. Très sous-estimé.
Je suis d'accord.
Parce que, veut pas, les musiciens qui sont quoi, qui touchent un peu au disco, on les boude un peu, tu sais, on veut vraiment, tu sais, c'est pas des purs rockers, mais c'est comme, ça veut rien dire, c'est vraiment un groupe très talentueux. De toute façon, leur base de musique, c'est le punk et le reggae.
Ben, écoute, on l'entend à base, on entend le petit beat disco, là.
Ouais.
Ça, c'est une chanson, en fait, sur beaucoup de chansons de Blondie, là, j'ai beaucoup trop fait de la 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 nanana tatata. Puis tu sais, ce qui est le pire, c'est que c'est pas que je connais pas les paroles, là, mais c'est facile, là.
Ah, ouais.
C'est Art of Glass qu'on entend en background, là, pas ça.
Yes. Puis là, imagine que elle est devenue l'artiste la plus populaire au monde depuis les Beatles. C'était tellement
ça,
big,
je savais pas,
Debbie Harry, ouais, elle est devenue l'artiste la plus populaire depuis les Beatles. On dit que même qu'elle était tellement populaire que ce qui arrive, c'est que le groupe est mort en 83. Pourquoi? Parce que les gars dans le band, ils sont devenus jaloux avec l'argent, la jalousie, le succès, ça montait à tête. Et c'est ce qui a tué le groupe en 1983. Et ça, c'est ça qui a été dommage dans tout ça, parce qu'il y avait du talent là énorme.
Je te pose la question, mais j'ai vraiment pas la réponse là. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a déjà eu comme un retour de presque le groupe ensemble au complet?
Oui, il y a eu des... Ça a été quelques fois, ils se sont réunis.
Réessayer,
ils ont même sorti des albums dans les années 90 et même dans les années 2000. Ils sont revenus, ils se sont parlé, mais à cette époque-là, là, c'était devenu... ça se parlait plus. Là, t'sais, il y a même un vidéoclip d'une chanson là, qu'ils ont faite, et puis il y a juste le guitariste et la chanteuse dans le vidéoclip, parce que le reste du groupe, ils ont décidé ce matin-là qu'ils boudaient. Là, t'sais. C'était vraiment ça. Là, t'sais, la jalousie...
Ça arrive souvent des bandes. Hein. Des fois, il y en a un qui décide de trop consommer, puis ça fait suer les autres. Parce qu'il fait pas attention, puis des fois il arrive sur scène puis il est pas sa coche là. Il manque un peu de
ça. C'est un groupe de New York, puis elle vient du New Jersey, puis tu parles de consommation justement. Elle a commencé à consommer à l'âge de 12 ans du peroxyde.
Un peroxyde là, c'est bien la petite truc que tu mets sur une plaie, puis ça fait des petites mousses là.
Ouais, en plein ça. À 12 ans, elle a commencé à décider de bosser avec ça.
C'est quoi, elle le sniffait, elle buvait, elle s'injectait?
Elle buvait sûrement, ouais.
Ben voyons.
Sûrement.
Faites pas ça à la maison.
Non.
Écoute, après sniffer du gaz, là, j'aurais tout entendu. OK.
Ben elle, c'était du peroxyde. Et c'est pas compliqué. Debbie Harry, là, à l'âge de 12 ans jusqu'à mi-trentaine, C'était très rare qu'elle était à jeun. Même dans les vidéoclips qu'on peut voir comme Hall of Grass, n'importe quelle là, était jamais à jeun. C'était une fille qui était très osée, même que pendant les entrevues, les journalistes avaient peur d'elle parce qu'elle était trop osée.
Elle s'enlevait des morceaux de vêtements pendant les entrevues?
Ouais, si les journalistes étaient de son goût, ben,
elle poignait une fesse?
Ah oh, ouais, elle pouvait le taponner n'importe où.
Hashtag moi aussi?
Ouais.
OK, c'est beau.
Oui, exactement. Donc, c'était un petit peu ça, Debbie Harry, là, tu sais. Et puis, c'est ça. Puis là, ben, grosso modo, à l'âge de 18 ans, elle s'en va à New York. Là, elle travaille comme serveuse d'un... des genres de bars, là, les bonnies, là, tu sais, les filles qui sont habillées en bonnie,
wow,
là,
oui,
le Playboy, là, en lapin. Mm-hmm. Et puis, là, tout ça, s'est fait un groupe de musique avec deux de ses copines. Eux autres faisaient de la musique un peu de style Janis Joplin. Ils reprenaient ses chorégraphies, puis...
C'est avec quel nom, ce band-là, avec ses amis? Est-ce que tu...
Oui, je pourrais te dire ça. Ça s'appelait les The Steel Toss.
The Steel Toss?
Ouais. S-T-L-L-E. T-O-S, ça s'appelait comme ça.
Okay.
Et puis, là, c'est là, on a commencé à avoir des doutes en ce coudon. Elle ressemble à Marilyn Monroe, elle.
Oh!
Là, on a commencé à croire que c'était la fille de Marilyn Monroe, carrément. Là, il y avait des rumeurs sur elle que c'était la fille de Marilyn Monroe. Et c'est là qu'elle a rencontré, en 73, son copain Steve Steen. Alors, c'est avec elle qu'elle va être en couple avec jusqu'en 87 à peu près. Ils se sont séparés après. Ils sont devenus bons amis plus tard. Et pourquoi le groupe s'appelle Blondie? Parce qu'à chaque fois qu'elle se promenait dans la rue, y a les gens l'appelaient tout le temps « Hey, Blondie! » »«
Hey, Blondie! »
C'est ça. C'est le même qui vient le nom du groupe, tout simplement. Bien sûr, quand ils faisaient du punk, puis ils ont commencé au CBBG's, le fameux bar mythique qu'il y avait à New York. Ça, c'était vraiment là, la place des punks du côté de New York, parce que le punk est né en Angleterre. Mais il y avait une grosse aile new-yorkaise aussi dans le monde du punk, là, qu'on pouvait aller voir les groupes au CBBG's, qui était la place du punk là, en Amérique. Et là, t'sais.
Et là, présentement, on entend Rapture.
Rapture, ouais, qui est la toute première chanson rap de l'histoire de la musique. Justement, elle fait son rap là. Fat five, Flash is cool, Francois, c'est pas Flash ain't no do, and you don't stop. Shoot a shot, go out to the parking lot, and you get in your car, and drive real far, and you drive all night, and then you see a light, and it comes right down, and lands on the ground. Bon, ben là, tu t'as peut-être écorché certaines personnes qui adorent la musique, le rap, là, ouais.
Le type de musique rap. Mais c'est la toute première chanson.
Exactement. Ben oui, c'est comme ça que ça a commencé. Parce qu'à l'époque, les Noirs, c'était beaucoup plus de breakdancing, mais le rap, ça se pratiquait pas.
C'était du hip-hop, mais
c'est... Il y en a qui faisaient un petit peu de rap sans le vouloir, comme James Brown dans les années 60. Il y en avait, tu sais, même dans des artistes un petit peu plus funky, mais c'était sans le savoir, là, tu sais.
Mais là, tu m'apprends quoi, là?
Dire que, tiens, on va faire une chanson, puis on va parler dedans, puis la pièce, elle s'appelle en plus Rapture, fait que, tu sais, et puis pourtant, c'est une blonde de New York, c'est pour ça que je te dis, c'est un groupe qui a tellement de talent, très sous-estimé, Blondie, et ça, c'est, on parle tout le temps des grands, des Pink Floyd de ce monde,
oh,
et
ainsi oui.
de suite, mais on oublie ces groupes-là, là, qui ont
qui en ont inspiré
talent
d'autres,
énormément, là, ben oui.
oui,
et puis c'est ça, ils ont créé vraiment la toute première chanson rap, et la toute première chanson qu'on a jouée tantôt, Hall of Grass, ça, c'est une chanson, justement, que le guitariste, le chum à Debbie, qui avait depuis plusieurs années dans le tiroir, et puis il savait pas quoi faire avec, c'est une tune reggae qu'il avait, et c'est Mike Chapman, le producteur, il a dit, écoute, si t'as accélère le rythme, puis t'enlèves le côté reggae, on pourrait essayer de faire de quoi de pas pire avec ça. Et ça a donné Hall of Grass, carrément, qui est un des hymnes de disco, là, un des grands hits dans le monde du disco tout court.
Fait que finalement, ils ont joué dans plusieurs types de musique.
Exactement.
Là. Au départ, c'est supposé d'être du rock, là, on s'entend, du punk rock.
Ouais.
Et après ça, ils ont touché le disco, ils ont touché un peu le rap, ils ont touché un peu le reggae, comme tu l'as mentionné. Fait qu'ils ont exploré énormément, ils se sont fait confiance, puis c'est pour ça qu'ils ont eu tant de hits.
Ben oui, parce que c'est un groupe qui était très talentueux, et puis elle était même dans un groupe hippie en 1967. Elle était choriste avec les Wind in the Willows. Alors, tu sais, elle a touché un petit peu là-dessus aussi, la musique hippie. Alors, ça ressemble un petit peu à ça. Et puis, c'est ça. C'est les grosses chicanes qu'il y a eu. Ça, c'est One Way Hall Order.
Même pas de besoin de te le dire qu'est-ce que je vais jouer. Il sait, on l'écoute un peu.
Ouais.
donne le goût de baisser les fenêtres du véhicule puis de finalement faire un peu plus d'auto, hein?
Ouais.
Maud, t'as dit qu'elle a une belle voix, hein?
Ah, oui. Donc, le groupe est mort en 1983, et puis elle, avec Stein, ils ont, son copain, ils ont sorti un album ensemble en 1985, mais la Blondie Mania était vraiment terminée, parce que 1985, là, on était à l'ère de Madonna qui arrivait, on était à l'ère de Cyndi Lauper, on était passé à autre chose, tu sais, Blondie, c'était les années 70, that's it. Et même un de le hit, qui est du reggae, de Taille des Aides, ça aussi, au début des années 80, ça a été leur dernier hit, là, 1982, là, justement, ouais, c'est elle qu'on entend. Ça, ça a été leur dernier hit, vraiment, là. Et là, on reconnaît le côté reggae, là, de Stein. Là.
Je dis, c'est les chansons que je fais le plus de la 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 nanana.
Ah ouais?
Même si je connais tout. Tout le monde est capable.
Ah ben oui.
Là, je te dis, ça n'a pas de sens.
C'est vrai.
Donc ça, ça te dit que c'était 85?
Ça, 83.
83, excuse-moi. Ouais, 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 c'est ouais. le dernier. C'est en 85 qu'elle a sorti un album avec c'est son copain ça. À l'époque.
Ouais. Okay. Puis il y a un autre gros hit qui a été numéro 1, Call Me. Tu vas la reconnaître tout de suite. Peut-être. Celle-là aussi.
Si peu, je l'ai. Ouais. Hey, check bien ça, moi, c'est pas long. Là.
Ça rentre, ça.
Aujourd'hui, c'est beau en plus, là.
Avec les vitres baissées, là.
On se laisse emporter.
Peut-être pour finir, pour Blondie, ben Debbie Harry, elle, à la fin des années 90, elle a décidé de s'en aller dans le monde du jazz, un peu comme Pat Benatar l'a fait. Qui est allé aussi dans le monde du jazz? Lee Harron, la métalleuse canadienne.
Ouais.
Elle aussi. Il y a comme une vague à peu près en même temps. Ils ont tous décidé de s'en aller dans le jazz dans les années 90. C'est ça, mais sauf que là, c'était plus dans le jazz. Elle cherchait vraiment pas à avoir des hits là-dedans pis tout ça. T'sais, c'était plus entre guillemets underground, là. Mais c'était un petit quelque chose dans le monde de la musique qu'elle voulait vraiment toucher. Bref, tout ça pour dire que ça a été un des grands groupes, oui, dans le disco, ça a été très fort dans le disco, mais vraiment dans le rock, un groupe très sous-estimé, un groupe très talentueux, puis ils ont eu un paquet de hits. Et c'est dommage parce que, comme on dit, l'argent, la jalousie, ça a été vraiment là, c'est ça. Puis à un moment donné, les gars ont décidé de se revirer contre elle et puis dire que gars, c'est fini avec toi, puis on arrête ça. Le boudage, les crises de vedette qu'il y avait. Parce que les gars, puis je les comprends, tu sais, c'était des excellents musiciens. Ils bâtissaient une chanson, ils montaient une chanson, puis ils travaillaient là-dessus, puis ils la produisaient. Et qui avait toutes les médailles, ben c'était Debbie Harry qui arrivait avec son micro, tu sais.
Mais tu sais, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Là. Souvent, on voit le chanteur ou la chanteuse, puis on fait comme, hey, wow! Puis là, tu sais, tout le monde est pâmé devant le chanteur ou la chanteuse, puis là, il capote, mais il oublie le bassiste en arrière, il oublie le guitariste, il oublie le drummer, il oublie la personne qui a composé la chanson ou le travail d'équipe qu'il y a derrière tout ça. Et ça peut être frustrant. Je te dis pas, bon, il y a certains groupes et bands, des musiciens aujourd'hui qui, des fois, engagent des musiciens, puis c'est la tête du groupe. Des fois, c'est le guitariste qui est la tête du groupe, vous le savez pas. Des fois, c'est le chanteur, bien évidemment. Ouais. Mais dans la vieille formule de band, en majorité, t'avais, c'est ça, une ou deux personnes qui composaient en arrière, mais la personne qui chantait, c'est pas nécessairement elle qui avait composé le le tout. Et c'est, tout le monde était pâmé devant elle ou devant lui. Puis finalement, les autres se faisaient un peu oublier. Fait que finalement, c'est comme ça que tu me dis que ça partit une guerre.
Exactement. Puis ce que tu me fais penser, il y en a une qui a réglé ce problème-là.
Ah ouais?
C'est une artiste francophone qui chante en anglais. Une artiste francophone de Toronto, imagine. Cécile Monique. Elle, Cécile, OK, c'est dans le style Within Temptation, gothique metal un peu. Et elle, Cécile, de son côté, toute sa musique, c'est toute elle qui a écrit les paroles. Elle a fait les notes. Au niveau musical, c'est toute elle qui a tout monté ça. Donc, elle engage des musiciens. Et puis, tiens, voici ta feuille de notes. Toi, tu vas jouer ça.
Tu vas faire ci, tu vas faire ça. Tu le modifies un peu. Parce que souvent, la tête de derrière tout ça, c'est déjà jouer quasiment tous les instruments. Il y a d'autres exemples. Écoute, la semaine dernière, on a mentionné Steven Wilson. C'en est un qui engage des musiciens pour composer maintenant. Depuis qu'il est sous son nom avec ses albums, il engage des musiciens pour ses nouveaux albums. Puis des fois, ben, il en garde deux. Il change tout. Ou bien, il en change quelques-uns ici et là. Il y a Ghost aussi qui fait ça depuis qu'il a eu justement une poursuite, le band rock metal, on peut dire soft metal, qui fait ça. Dans le fond, il y a Tobias Forge qui est derrière le personnage, soit du cardinal Copia ou du papa Emeritus, qui fut lui justement, c'est la tête derrière tout ça. Il compose, il crée, mais il engage maintenant, depuis quelques années, des musiciens pour faire, pour concevoir ses idées, pour les rendre possibles sur scène. Donc, il y en a plusieurs maintenant qui font ça comme ça.
Oui. Puis il y a des musiciens aussi qui sont engagés pour le studio.
Oui.
Et d'autres qui sont engagés pour le live.
Oui.
Parce qu'il y en a qui veulent pas faire de live. Tu sais, comme à la base, Led Zeppelin, Jimmy Page, Robert Plant, toute ta gang-là, ça voulait pas faire de live. Là. Eux autres, c'était à leur condition. Quand ils ont parti de groupe, ils ont dit, OK, on va être un groupe de studio, mais on fera pas de live, là, oubliez ça. Là. En fin de compte, ils en ont fait. Là.
Ils ont plié un peu.
Ouais, ben c'est ça. Tu sais, ça valait la peine de la vie de tourner. Ça va la peine aussi, ouais, là, tu sais. Ouais. Surtout eux autres, là, massacrer des chambres d'hôtel, c'est les pires, là, tu sais. Mais c'est ça. Mais à la base, c'était vraiment un groupe de studio, là. Il n'était pas question que...
Mais imaginez-vous, là, vous faites une tournée de... Bon, là, on s'entend, là, on peut pas avec la pandémie, là, mais imaginez-vous l'ambiance d'une tournée quand vous êtes 4, 5, 6, des fois 7 musiciens, quasiment en colocation tout le temps. Vous voyez tellement tout le monde. Votre famille, des fois, est chez vous, à quelque part d'autre. Vous autres, vous êtes rendus, je sais pas, moi, vous êtes rendus au Canada, en Chine, au Mexique, pour faire... Bon, peu importe, pour faire des shows... Vous finissez par vous taper ses nerfs. Ça peut être vos meilleurs chummies du monde, là. Mais à m'emmener, là, c'est comme des colocs. À m'emmener, il y a une possibilité que vous pilez ses pieds, là.
Ben, c'est parce que c'est des collègues de travail et de un, tu sais, avant tout et souvent, tu sais, oui, il y a un côté amical qui est là, tu sais. Je prends l'exemple Halloween, groupe Halloween qui est des précurseurs du power metal. Le groupe existe depuis le début des années 80 et encore aujourd'hui en 2020, bon, aujourd'hui encore, ils font des tournées, puis les gars sont ensemble dans l'autobus, puis ils vont faire une tournée nord-américaine, ils vont faire le tour de l'Amérique, ils vont dormir dans l'autobus, puis tout se fait dans l'autobus, là, tu sais.
Ouais.
Donc, les gars, ils n'ont pas le choix de s'endurer l'après-midi, là, puis sinon, un qui ronfle trop, puis...
Oui, c'est ça. Un qui est plus ça brosse les autres.
C'est
bon.
Ça.
Il y a un Ben, par contre, qui a toujours su être en santé à ce niveau-là, puis il y a un beau documentaire, je me rappelle pas ça a été fait en quelle année, là, la mémoire me fait défaut, mais c'est Iron Maiden.
Ouais.
Maiden, eux, ont toujours eu la bonne façon de faire, ils ont toujours eu l'intelligence de pas se piler ses pieds, parce que entre leurs tournées, entre leurs concerts, ils ont leur activité. Il y en a des là-dedans, je me rappelle pas tous des noms, parce que je sais pas c'est lequel parmi tout ça, là, mais il y en a deux qui sont passionnés de golf, donc entre leurs shows, ils vont jouer des parties de golf ensemble, l'autre s'en va faire un tour d'avion, là, vous savez que je parle de Bruce Dickinson, il y en a d'autres qui ont d'autres passions, d'autres sont plus relax, quoi que ce soit, donc ils se voient en concert, c'est intense, sont là, ils ont du fun, mais ils ont tout le temps du fun, parce qu'ils se tapent pas ses nerfs en dehors de ça, ils sont pas tout le temps ensemble, donc tu sais, oui, ils se côtoient, oui, ils travaillent, c'est des partenaires de travail, mais au moins, ils ont l'intelligence de faire leurs activités et c'est ce qui fait en sorte qu'ils se sont jamais vraiment tapés ses nerfs.
Oui, en plein ça. Mm-hmm. Mais Iron Maiden a le moyen de le faire, c'est
oui,
ça qui est l'avantage.
Oui. Si tu parlais de tourner de bus, c'est ça,
c'est ça. C'est ça, eux autres, c'est différent là, pour des plus petits, puis surtout des vieux groupes de musique qui sont là depuis 40 ans, qui eux...
ils ont les moyens.
C'est ça, tu sais, puis qui le font par passion aussi, tu sais, parce que c'est sûr que quand tu prends pas une voix qui est... Si tu prends, par exemple, le monde du métal, si tu t'en vas dans le monde du métal, c'est sûr que tu viendras pas riche en faisant du métal. Là,
non, c'est ça.
C'est sûr que...
Ça atteint moins de gens, c'est plus niché. Là.
Exactement. Donc, comme l'exemple de Halloween. Halloween, eux autres, de leur côté, c'est sûr que les gars, ils ont même un autre emploi là, à part leur groupe. Là, t'sais. Donc, c'est sûr que eux, je prends un exemple toujours avec eux pour... S'ils vont faire une tournée nord-américaine en autobus, c'est sûr que les gars, ils n'ont pas les moyens d'avoir chacun le petites affaires. Fait que quand ils partent dans une ville, ben souvent, ça va être par obligation par l'autobus qui va aller quelque part, s'il y en a un qui va aller une place. Ou des fois, si c'est une fille dans le groupe, ben là, dans ce temps-là, c'est moins pire parce que il y a souvent des chanteuses féminines, mettons, des groupes vont venir. Et la chanteuse, elle, bien entendu, où est-ce qu'on la retrouve dans l'après-midi avant un concert, ou la veille ou le lendemain du concert, après Laurier.
C'est vrai, ça. Sauf que si on parle de Fleetwood Mac, c'est peut-être une autre histoire. Stevie Nicks qui a eu des aventures avec tous les musiciens du groupe, c'est une autre affaire.
Ouais.
C'est ça. Ça dépend des circonstances, mais effectivement. T'avais quelques autres nouvelles. Merci d'avoir fait le tour de Blondie. Puis pour vrai, je pense que tu leur as rendu hommage. Puis je suis contente parce que c'est un band qu'on joue sur nos ondes. Puis je pense que ça nous rappelle de très beaux souvenirs. Écoute, on a fait jouer quatre chansons. On a joué Call Me, Rapture, Heart of Glass, puis The Tide Is High.
Ouais.
Puis honnêtement, les quatre chansons, j'ai des souvenirs avec.
Ouais.
Puis je pense que je suis loin d'être la seule.
Ah non, puis on aurait pu en passer d'autres. Là, c'est ça le pays. Il y a eu tellement de grosses chansons. 10 tonnes dans le top 10, alors c'est quand même pas rien.
Les nouvelles de Papa Roach.
Papa Roach, qui ont repris, eux, la chanson Song 2 de Blur. Alors ça, ça a été un gros hit dans les années 90. Une petite chanson qui dure même pas 2 minutes, mais ça a été un hit énorme. Alors, il y a Papa Roach qui ont repris leur version et c'est vraiment pas mauvais, c'est vraiment bon. Vous risquez d'être surpris, surtout qu'il y a beaucoup d'amateurs de Papa Roach dans le coin.
Je me le note.
Ouais.
Puis Pearl Jam, t'as des nouvelles aussi les concernant?
Ouais, ils ont sorti une nouvelle chanson, Get It Back.
OK.
Et nouvel album va sortir le 11... non, qui est sorti
le
11
octobre?
11 novembre. OK, c'est ça. Le 11 novembre, la sortie du prochain album. Et là, ben, c'est ça, c'est le nom de Get It Back qui est leur nouvelle chanson. Alors,
elle est déjà disponible, celle-là.
Oui, puis ça, la chanson envoie des profits là, pour Voting Right Lab. Ça envoie des organismes, là, les ventes de cet album-là. Get It Back de Pearl Jam, si vous êtes amateur de grunge.
Ben, merci beaucoup, Eric Flynn. C'est toujours un plaisir de parler musique avec toi. Et on se retrouve la semaine prochaine.
Oh, Jet.
Oui, Jet.
Yeah,
ça, look what bon, you've done. Yes. Sur 88.7. Bye-bye. Take my photo off the wall if it